Timothée nous a fait voyager dans les étoiles. Et nous revenons aujourd'hui avec sur des choses très terre à terre, avec cette parabole du cep et des sarments, qui s'inscrit dans la série des sept prédications, sur les sept déclarations « Je suis » de Jésus. La semaine dernière, je vous le rappelle, nous avons évoqué le sixième « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et comme l'a dit Eric, le « je suis » d'aujourd'hui s'inscrit dans le même contexte que le précédent, c'est-à-dire que nous sommes là dans les toutes dernières heures avant l'arrestation de Jésus, ce qui nous parle bien sûr aujourd'hui, en ce dimanche qui précède Pâques, ce qui nous parle de manière toute particulière alors que nous nous apprêtons à célébrer Pâques. Dans ma Bible, second 21, il y a des titres en tête de chaque section, et la section dont nous parlons, au cours de laquelle Jésus est réuni pour la dernière fois avec ses disciples, a un titre. Le titre, c'est « Dernières instructions de Jésus à ses disciples ». Et notre texte se situe au chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Mais avant de le parcourir, il est intéressant de noter, d'observer dans quelle thématique il s'insère. Après avoir annoncé son départ prochain, Jésus a annoncé, juste avant cela, aux disciples qu'il ne les laissera pas orphelins et qu'il leur enverra le Saint-Esprit. Et puis vient le passage de notre jour, le « je suis » de ce jour, et dans ce qui suit, il évoque de nouveau la venue du Saint-Esprit, mais cette fois pour parler de son action, de son œuvre, comment et de quelle manière il agira et comment il assistera les disciples dans la poursuite de leur mission. Donc je vous invite à garder en tête ce contexte du départ prochain de Jésus et de l'envoi du Saint-Esprit auprès de ses disciples lorsque nous allons lire la parabole du cep et des sarments qui commence au chapitre 15, verset 1. « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je suis le cep, vous êtes les sarments et mon Père est le vigneron. Tous les protagonistes de cette parabole sont clairement identifiés dès le départ. Nous avons là vraiment une des paraboles les plus claires qu'ait prononcée Jésus et qui s'inspire une fois de plus de l'agriculture et cette fois de la culture de la vigne. Elle nous décrit par le menu toutes les actions auxquelles se livre notre Dieu dans son œuvre d'édification, de purification, de sanctification, d'éducation, de pédagogie envers chacun de ses enfants. Et nous avons tout d'abord une expression très claire de la finalité, porter du fruit. Le sarment ne vit pas pour lui-même, mais pour porter du fruit. La conséquence en est que si tel n'est pas le cas, le vigneron ne le conserve pas. On peut supposer qu'il lui laisse le temps nécessaire pour arriver à maturité, qu'il le coupe une fois la saison suffisamment avancée pour qu'il soit clair que le sarment en question ne donnera rien. Nous l'avons vu en d'autres passages, notamment lors du sermon sur la montagne, le fruit est le signe tangible de la présence de l'Esprit de Dieu dans la personne du croyant. Et à l'opposé, bien sûr, nous avons le sarment qui porte du fruit. Celui-là a droit à toute l'attention du vigneron, car il connaît le potentiel qui est en lui. Seulement, pour libérer tout ce potentiel, il mène cette action de taille afin que le sarment ne se disperse pas, ne perde pas sa vocation, ne gaspille pas sa vitalité dans des pousses inutiles. Avec cette idée qui accompagne, bien sûr, cette image de la taille, le soin pris par le vigneron peut se faire dans la douleur. Et s'agissant donc du travail du vigneron, donc de Dieu dans nos vies, tout est là, dans ces trois premiers versets. Mais dès le verset 4, nous voyons surgir une autre idée, celle de la tentation pour le sarment de mener une vie séparée de son pied, une vie indépendante, qui lui soit propre, libérée, débarrassée de son pied nourricier. Alors, d'un point de vue agricole, on discerne bien, et c'est d'ailleurs le but des paraboles, des images, on discerne bien l'incongruité d'une telle tentative. C'est même tellement incongru qu'un sarment qui se détache du pied va se replanter ailleurs pour mener une vie indépendante du pied mère. Ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Pourquoi Jésus évoque-t-il cette hypothèse ? Ben précisément parce qu'il faut se rendre à l'évidence, chez les chrétiens, ça arrive. Parmi ses propres enfants, au sein de ses propres disciples, la tentation est grande pour chacun d'eux, de s'affranchir de ce qui pourtant est la source de toute vie. Tel l'homme qui scie la branche sur laquelle il est assis. Et donc Jésus fait là de la prévention. Pourquoi est-ce nécessaire ? Quelles sont les circonstances, les situations, les conditions dans lesquelles cette tentation peut surgir et se développer, voire se concrétiser ? Une remarque tout d'abord, on note que le sarment ne cherche pas forcément à changer de nature. Vigne, il est né, vigne, il veut rester. Il ne veut pas devenir quelqu'un d'autre, il ne veut pas changer de nature, il ne cherche pas à devenir un lilas ou un rosier. Mais l'idée de voler de ses propres ailes, de s'affranchir des contraintes du pied-mère, pas pour lui déplaire, et surtout, porter ses propres fruits. Des fruits qu'il aura librement choisis, des fruits à lui, et qui, il n'en doute pas, raviront le vigneron. Peut-être même le surprendront. Ah, et puis, la taille. Oh, la taille. Échapper à la taille. Ça va être difficile. Échapper à la taille. Pardon, c'est un peu compliqué, c'est un peu étroit. Hein, tous ces espoirs-là mis dans ce projet-là, cette pousse-là qui était prometteuse. Clac. Ah, ça fait mal. Ça commençait tout juste, ça poussait de tous côtés. Enfin, c'est dur, ça, hein. Pourquoi couper si court, si tôt ? Ça prenait bonne tournure. On ne pouvait pas attendre de voir ce que ça allait donner. Et puis l'année dernière, il y avait, sur un sarment comme celui-ci, la même pousse qui poussait au même endroit, et on l'a laissé pousser. Et puis cette année, elle a donné quelque chose de formidable. Mais moi, non, moi. Comme ça, sans un mot, sans explication. Rester attaché au CEP, vous parler d'une perspective, à griller au soleil en plein été, à grelotter sous le gel. Croyez que c'est bon pour le fruit, ça? Pas comme ça que je voyais ma collaboration à l'œuvre du vigneron. Et puis le CEP. Il faut voir par où il est passé pour que tous ces sarments puissent pousser en aussi grand nombre. Et il paraît, il nous a dit que ça peut tous nous arriver. Ça fait partie du contrat qu'il a dit. Le point culminant de cette parabole, celui qui, pour ma part, est le point culminant, et en tout cas que je veux développer ici, c'est le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est bizarre, hein ? Comment ça, rien faire ? Techniquement, concrètement, pratiquement, on peut faire plein de choses. On peut sortir dans la rue et proclamer le nom de Jésus. On peut se réunir, chanter, prier ensemble, tenir nos assemblées générales, prendre nos décisions. En quoi serions-nous empêchés ? Et il est un fait que les sarments détachés du pied ou coupés continueront à vivre un certain temps de la sève qu'ils ont reçue du pied jusqu'à leur séparation d'avec lui. Mais on le sait bien, ils ne trouveront en eux aucune des ressources qui leur fera porter le fruit jusqu'à maturité. La source n'est pas en nous. D'ailleurs, même en demeurant attaché à Jésus, la source n'est pas en nous. Demeurer attaché à Jésus ne fait pas de nous une source, mais un canal. Que le canal soit coupé, et il se vide. On a chanté ce matin, « En lui, je vis. En lui, je vis. » La source est unique, mais les canaux sont multiples. Qu'un sarment se détache, c'est pour son seul malheur, parce que le vigneron trouvera toujours des sarments pour porter le fruit qu'il attend. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il ne faut pas imaginer forcément le sans moi comme étant du vide. Hein. On dit que la nature a horreur du vide. Et de fait, ce qu'on appelle le vide ne l'est jamais totalement. Arrachons le pied de vigne et laissons les choses en état et nous verrons rapidement d'autres plantes occuper le terrain. Ce n'est pas un pied de vigne, ça c'est sûr. Il va pousser des plantes colonisatrices, envahissantes, et à terme certainement des orties et des épines. Sans moi, on n'est pas sans rien. Et ce qui prend la place qui revient à Jésus, de quel ordre que ce soit, finira tôt ou tard par dénaturer, étouffer, assécher le beau canal que Dieu entretenait avec soin, afin que l'eau de sa source s'écoule abondamment, sans obstacle jusqu'aux fruits. Est-ce parce que nous nous appelons Église que nous faisons toutes choses avec Dieu ? Est-ce que parce que nous avons une croix dressée sur ce mur que la croix de Jésus à sa place dans nos vies. Je parle bien sûr de la croix qu'il nous a demandé de porter avec lui. Est-ce que c'est parce que nous avons un temps que nous appelons temps de prière lorsque nous nous réunissons, que nous sommes en pleine communion avec Dieu, c'est-à-dire pleinement attachés au CEP, en pleine connexion avec la source? Si on considère les quelques jours vécu par le disciple, entre le moment où Jésus retourne vers son Père lors de son ascension et le jour de la Pentecôte, où ils reçoivent le Saint-Esprit, on peut effectivement dire qu'ils vivent là un véritable sans-moi. Dans cet entre-deux, ils n'ont plus accès au Jésus en chair qu'ils ont pu côtoyer pendant quelques années, 3 ans, et ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit qui leur a été promis. Il est intéressant de regarder ce qu'ils ont fait dans cet entre-deux, dans ce 100 mois qui leur a été imposé. Et on trouve la description de ceci dans le chapitre 1er du livre des Actes. Premièrement, ils obéissent aux instructions de Jésus, ne pas s'éloigner de Jérusalem pour y attendre d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils retournent dans la maison même où ils avaient l'habitude de se réunir avec Jésus. Ils y persévèrent dans la prière. Ils colmatent la brèche laissée par la défection de Judas en élisant Matthias comme apôtre, selon des critères qui s'appliquaient à eux-mêmes, hein, qui consistaient à avoir accompagné Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension, afin d'être témoin de sa résurrection. Donc, ils ne changent pas de ligne directrice, ils restent dans ce qu'ils ont vu en la personne de Jésus. Et ils conservent un lien étroit avec les autres disciples en les associant au nombre de 120 à 120 apôtres compris, donc 110 environ, en les associant à leurs prières et à leurs discussions, ainsi que le faisait déjà Jésus. Dans ce 100 mois, ils font tout comme avait fait Jésus, en respectant rigoureusement ses instructions et en ne s'autorisant aucune déviation ni même aucune innovation, alors que nous savons qu'ils avaient également reçu le mandat d'être ses témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils devaient certainement être impatients de se lancer dans cette aventure et de voir se réaliser les choses encore plus grandes que Jésus avait promises, encore plus grandes que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici. Eh bien non, sans la présence physique de Jésus, sans la présence de son esprit en eux, ils s'en tiennent strictement aux instructions temporaires qu'il leur a données. Ils agissent comme lui agissait et perpétuent ce qu'il avait instauré. Alors merci Seigneur, nous ne connaîtrons pas, nous, ce 100 mois déroutant que certainement ils ont connu pendant ces quelques jours. On sait bien que Jésus ne les a pas abandonnés, Jésus auprès du Père a intercédé pour eux, bien sûr, mais c'est quand même une période assez particulière. Mais nous ne connaîtrons pas cette période-là qu'ils ont pu connaître, puisque son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, nous est accordé dès l'instant où nous devenons ses disciples. Mais néanmoins, nous connaissons des périodes au cours desquelles nous pouvons être désemparés. Nous connaissons des périodes où rien ne va, et au cours desquelles Jésus nous semble absent. Elles sont d'autant plus déroutantes si elles ont été précédées de moments forts, de signes extraordinaires, d'événements au cours desquels Dieu manifestait son approbation en déployant sa puissance. Tout devient plus dur, plus sec. On est passé de la sève qui circulait avec abondance à travers le sarment et se déversait dans le fruit tout au long de la saison jusqu'à sa maturité, à cet instant où tout est froid, dur et sec, c'est l'hiver, tout semble figé et on n'en voit pas la fin. On n'imagine pas qu'aucun fruit puisse sortir de cette situation. Mais l'attitude des apôtres entre l'ascension et la Pentecôte nous inspire. L'obéissance à Jésus, rester dans ses commandements. C'est précisément là, dans ces instants, il faut rester arrimé au sec et surtout ne pas s'en détacher, surtout ne pas chercher mieux ailleurs, mieux autrement, mieux auprès des hommes, mieux auprès d'autres dieux peut-être. Au verset 10, Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ce parallèle entre notre attachement à Jésus et son attachement à lui, à Jésus, au Père, est une plus grande source d'inspiration encore. Nous pensons à Gethsémané, Nous pensons bien sûr à la croix, où Jésus a connu un tel arrachement qu'il l'a vécu comme un abandon paternel. Que serait-il advenu de nous si Jésus s'était détaché de son Père et détourné de ses commandements? De ce pied de vigne qu'on donnait pour mort, va surgir une véritable explosion de vie. Quel fruit ! Lors de la Pentecôte, dès la Pentecôte qui a suivi cette Pâque où tout semblait perdu, comment imaginer pareil revirement en seulement 50 jours? Comment imaginer qu'une communauté de 3000 croyants, puis 5000? Jaillirait de cet instrument de torture infâme. Comment imaginer que 2000 ans plus tard, d'autres disciples pousseraient sur le même pied de vigne et porteraient à leur tour les mêmes fruits en restant fermement attachés à lui et en gardant ses commandements en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je disais tout à l'heure que le vigneron taillait sa vigne sans dire un mot, sans la moindre explication. Et en fait, c'est bien souvent ainsi que nous vivons cette épreuve si difficile de la taille. Elle arrive sans prévenir. Elle se poursuit dans un silence que seul trouble les coups de ciseaux. Mais l'explication, nous l'avons eue, elle est là. Elle est sous nos yeux, afin que nous portions plus de fruits, afin que la sève nourricière soit tout entière, canalisée, sans en perdre une goutte, vers le fruit, vers notre but ultime, le fruit qui va se développer et que le vigneron a prévu de vendanger bientôt. Quelle est notre part dans le processus? À vrai dire, elle est presque insignifiante, elle est faible. Nous sommes la source de rien et nous ne nous taillons pas nous-mêmes. Nous ne faisons que transmettre ce que nous recevons. Et pourtant, nous semblons importants pour le vigneron qui a choisi de ne pas nous couper du cep et qui a choisi de prendre soin de nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit Jésus. C'est plus qu'un contrat. C'est même plus qu'une association, c'est une filiation. Une filiation qui prolonge et étend la famille de Dieu, qui accroît sa richesse spirituelle et qui la distribue généreusement, qui demeure attachée à Jésus comme lui-même est resté attaché à son Père et qui obéit au commandement de Jésus comme lui-même a obéi au commandement de son Père. Un attachement et une obéissance qui se manifestent en tout temps et qui constituent un recours, on a parlé des moments où c'est plus difficile, et une ligne de conduite particulièrement utile lorsque la direction à suivre semble moins évidente. Une direction nous a été donnée dans ces moments, retourner à Jérusalem, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, se mettre en prière, ce n'est pas le moment de changer de modèle, mais au contraire, de revenir et de se conformer au modèle donné par Jésus, enrichi bien sûr pour nous qui avons la parole de Dieu dans sa intégrité, dans sa totalité, de tout ce que les apôtres nous ont transmis sous l'inspiration de l'Esprit. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si nous demeurons attachés à Jésus, il y a de fortes chances que nos demandes s'inspirent des demandes de Jésus à son Père. Rien d'étonnant dès lors qu'elles soient satisfaites. Tôt ou tard, il nous faut seulement attendre le temps du Seigneur, non pas dans une attente passive, mais activement, patiemment, en nous attachant à la parole de Dieu et en obéissant à ses commandements. Si la vie chrétienne est seulement une série d'actions à mener, de décisions, de directions, de dispositions à prendre, alors nous pouvons faire sans Jésus. 9 milliards d'êtres humains le font tous les jours. Mais dans ce cas, il ne faut pas dire que nous agissons au nom de Jésus, car nous le savons, ce travail ne subsistera pas au feu lors du jugement. Mais si par contre, c'est de fruits qu'il s'agit, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi, sans Jésus, sans son esprit, nous ne pouvons rien faire.